Médien.
Médien. Podcast. Médien.
C'est toujours avec le même plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle escale au cœur de l'Afrique.
Médien. Amna, l'Afrique en culture.
Et dans quelques instants, nous irons à la rencontre de la réalisatrice, l'auteur marocaine Khaoula Asbab Ben Amar, qui a publié dernièrement chez La Croisée des Chemins son premier roman intitulé presque « L'histoire d'une renaissance ». Un nouveau roman très prometteur dans lequel l'auteur raconte l'histoire, entre guillemets, d'une femme dans un avion. Elle s'appelle Ito et elle s'offre une seconde vie. Sinon, nous recevrons également une autre femme, une autre auteure, Sundus Mustarhim, qui en a traversé des épreuves. D'ailleurs, son premier roman est une lettre ouverte à sa fille, cette maman bruxelloise. Sort donc son premier roman, Je t'aime d'amour jusqu'aux étoiles, qui fait office d'introspection, d'un cri d'amour qui vient des tripes pleins d'espoir et de vie. Sinon, nous parlerons également cinéma avec le film de Adil Fadli qui a connu un succès monstrueux lors de la dernière édition du Festival National du Film à Tanger. D'ailleurs, il a raflé pas moins de 5 prix, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur. Et tout d'abord, place à notre invité Sundus Mustarhim, qui en a traversé, comme je disais tout à l'heure, des épreuves. Cette jeune maman de 31 ans sort son premier roman qui fait office de véritable introspection, d'échappatoire. Je t'aime d'amour jusqu'aux étoiles. D'ailleurs, le nom du roman se suffit à lui seul, puisqu'il retrace avec beaucoup d'amour et d'émotion un morceau de vie, celui d'une maman, Carla, hantée par sa vie, par ses démons intérieurs et son angoisse, et qui décide, dans cette lettre ouverte, de se confier à sa fille, mais également à elle-même.
Quand j'ai commencé à écrire, c'était pas du tout dans un but de publier ce livre. C'était vraiment une écriture pour moi. Je me suis dit peut-être que ça peut être libérateur. J'ai d'ailleurs commencé à écrire un peu une autobiographie et ça a duré une heure et puis j'ai arrêté. Je me suis dit c'est impossible pour moi d'écrire une autobiographie, je suis personne. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Et au fil de l'écriture, je me suis rendu compte que c'était pas mal ce que je faisais. Et quand je dis pas mal, je veux dire, il y avait une vraie histoire qui se déroulait. J'ai terminé de l'écrire en 20 jours. C'est peut-être lié à ma personnalité. Je dis toujours, c'est pas parce que je suis HPI que j'ai réussi à écrire en 20 jours. Tout le monde est capable d'écrire, mais c'est sûrement parce que je suis HPI que j'ai fait un focus sur l'écriture et que je n'ai fait que ça et que ça a duré 20 jours. J'aurais pu l'écrire en un an et avoir une vie normale. Moi, je n'ai fait que écrire pendant 20 jours. Ça a été une libération pour moi et c'est vrai que ça a été très thérapeutique. Je l'ai ensuite fait lire à mon entourage. Et c'est eux qui m'ont grandement encouragé à le publier en disant c'est une vraie histoire qui inspire la motivation, qui offre la possibilité aux gens de se dire j'ai vécu ça, mais c'est possible de s'en sortir et c'est possible d'avoir une vraie vie et un avenir quand même.
Et au-delà de cette pulsion pour écrire, toi en tant que femme, est-ce que tu avais besoin d'exorciser tout ce qui t'arrivait? Est-ce que, au-delà de le publier, qu'il soit lu, que ça motive d'autres gens, est-ce que c'était pas aussi pour toi une sorte de salvation? Il fallait faire quelque chose justement pour ne pas couler.
Je pense que oui. Après, on a chacun nos manières de réagir, mais je pense que l'analyse est assez bonne dans le sens où quand on est orienté solution dans la vie, et qu'on traverse des périodes difficiles et qu'on ne sait pas trop quoi faire, on essaye de trouver un moyen de s'en sortir. Là, au niveau de ma carrière, j'étais vraiment bloquée alors que ça occupait 10 heures de ma journée. Et l'écriture, ça a été 14-15 heures d'écriture par jour. Et oui, en quelque sorte, ça m'a sauvée parce que au lieu de broyer du noir, de déprimer, de s'isoler du monde, ça a été bénéfique finalement. Ça a été une vraie introspection. Et j'en suis sortie complètement différente. Je ne peux pas dire que j'ai juste couché mon histoire sur du papier. J'ai romantisé l'histoire, donc ça a demandé aussi beaucoup de réflexion de ma part. mais j'en suis sortie différente. Je sais que après l'écriture du livre, j'ai eu une certaine libération. Donc totalement, c'est totalement ça qui s'est produit. C'était pour moi une manière de revivre certains événements où je ne m'étais pas donné le temps de vivre pleinement les émotions liées à ces événements. Je pense qu'on vit tous dans une vie à 2000 à l'heure où on n'a même pas le temps en fait de vivre les émotions. On est plutôt orienté solution. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai divorcé. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ah ben, je dois avoir un avocat. Je dois m'occuper de ma fille. Et on laisse pas vraiment la place aux émotions aujourd'hui. Moi qui suis hypersensible, ça a été pour moi l'occasion de réouvrir toutes ces fenêtres de mon passé et de revivre pleinement les émotions liées à ces événements comme le divorce, l'annonce du divorce à la famille, l'accouchement, j'ai eu un accouchement un peu compliqué, la maternité, etc. Et j'ai pu revivre pleinement ces émotions pendant 20 jours et j'en suis sortie différente, complètement.
Et c'est vrai que voilà, ce livre qui te tient particulièrement à cœur connaît un certain succès puisqu'il y a une adaptation ciné et donc prévue.
Exactement.
Est-ce que tu peux nous en parler?
Alors c'est un peu la surprise de la vie après ça, parce que donc le livre, il n'a pas du tout été écrit initialement pour être publié. Et puis finalement, je fais ma tournée médiatique en France et sur un plateau TV, je suis en interview. Et il y a une productrice qui est présente, qui vient parler de sa série qui est très connue en France. Et voilà, c'est un peu une histoire de destin, je pense. On se retrouve, on se croise sur le plateau, elle finit par rester sur le plateau et avoir quelques échanges. Elle décide d'acheter le livre, de le lire. Donc c'était au mois de juin. Et donc elle me contacte en me disant « Ton livre, j'ai adoré et je veux qu'on en fasse un film ». Et moi, je me suis dit « C'est pas possible. Déjà, mon livre sort, je fais une tournée médiatique, je viens de la finance, j'étais derrière un bureau 12 heures par jour. C'est dur à croire. J'ai mis 2 mois à réaliser en me disant non, c'était pour être gentil qu'elle a dit ça, c'est pas possible. Et puis là, en septembre, on a eu notre réunion pour parler du livre, du film, et j'ai signé là en septembre. Donc, je me retrouve dans une aventure cinématographique en parallèle de mon aventure littéraire. Donc, comme quoi, dans la vie, on ne sait pas ce qui nous attend.
Et en tout cas, de belles choses t'attendent et voilà, ça fait chaud au cœur de voir que parfois quelque chose d'aussi intime peut engendrer, qu'on donne, peut engendrer et bien de si belles choses à côté. Surtout qu'à la base, ce livre, et bien c'était un peu une lettre ouverte à ta fille et voilà, c'est quelque chose qui nous a beaucoup touchés. C'est pour ça justement aujourd'hui qu'on voulait t'avoir. Merci beaucoup Sundus d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de te recevoir.
Merci à toi, Amna. Un grand plaisir partagé.
Merci.
Et après ce petit à-tête avec Sundus Mustarhim, qui nous a parlé de son livre « Je t'aime d'amour jusqu'aux étoiles », je vous propose une petite pause musicale avec Noyi de CK, qui récidive encore une fois. Et on se retrouve juste après. You stole my heart. From nowhere, you come here and you take control of my emotions. Missing say, oh, it's your moon alone. If I let you go, I go down my soul. Something, I wanna give you something that you remember.
for my woman. Do me nice, show me bebe. Do me fast, you do me jeje. My islanding, she keep it dream. Oh, she come around, she don't wanna leave. She my lover, I'm my bestie.
Noyi Sikei qui récidive avec cet énorme tube que l'on aime tout particulièrement tellement il est dermique. Après avoir parlé littérature, nous parlons tout de suite cinéma avec un film dont vous avez certainement entendu parler dernièrement, Mon père n'est pas mort, de Adil Fadili qui signe son premier long métrage. L'histoire est simple, Malik et son père Mehdi vivent dans une fête foraine où ils travaillent comme bricoleurs. Mehdi offre à son fils 5 toiles toutes particulières. Curieux, Malik est tout simplement happé par la beauté de ses peintures. Le lendemain, les deux se retrouvent accidentellement au milieu d'un rassemblement politique. Entièrement tourné en studio à Casablanca, le film de Adil Fadli revient sur les années de plomb, raconté à travers les yeux de Malik, un enfant dont le père a disparu et qui se retrouve à être gardé par des animateurs de cirque traditionnels marocains. Je rappelle qu'Adil Fadli a gagné pas moins de 5 prix lors du dernier festival national du film de Tanger. D'ailleurs, on écoute sa réaction juste après la remise des prix.
Aujourd'hui, j'ai réalisé un rêve d'enfant. Il y avait beaucoup de sincérité, beaucoup d'émotions tout au long du travail sur ce film, tournage, préparation. Cette semaine aussi, qui était très, très dure pour moi. Très dur par l'absence de mon père Larmo, qui n'est pas là, qui a vu le film avant de nous quitter. Et je lui ai dit de le film Mon père n'est pas mort, et voilà.
Adil Fadili, donc, on ne peut plus ému après la remise des prix lors du Festival National du Film de Tanger, où il a raflé 5 prix, dont celui du meilleur film pour Mon père n'est pas mort. Après plusieurs téléfilms et séries télévisées pour la télévision et des courts-métrages primés au Maroc, mais également à l'international, Adil Fadili s'est enfin au cinéma façon long-métrage avec Mon père n'est pas mort, qui met en scène notamment le père Adil Fadili et le réalisateur Fawzi Ben Said. Grand passionné de cinéma, de l'image, le réalisateur de Cours Vie et de la série télévisée La Brigade, sinon que son premier long et s'attaque à une thématique très lourde. Mon père n'est pas mort, entièrement tourné donc, comme je le disais à l'instant, en studio à Casablanca, raconte avec brio et surtout à travers les yeux d'un enfant, Malik. Un enfant dont le père a disparu et qui se retrouve gardé par des animateurs de cirque traditionnels marocains. À l'intérieur du cirque et au milieu des artistes, les mêmes rapports de force finissent notamment par s'installer entre le chef du cirque, son directeur, joué par son père Aziz El Fadli, et les artistes de ses troupes. Il faut dire que Adil Fadli a grandi lui-même dans un théâtre entre marionnettes, la scène et les lumières. Adil Fadili a toujours été fasciné par l'univers du cirque, du spectacle, du cinéma. Pas étonnant que ses œuvres ressemblent à un grand cirque à ciel ouvert où il aime raconter, un peu à sa manière, la condition humaine, sa complexité, ses contradictions. Adil Fadili joue avec le burlesque, mais également le drame. Il jongle un peu avec les deux, comme le ferait un clown, avec toujours comme fond de toile la mort, la nostalgie, la mélancolie qui nous guette en permanence. Un univers qu'on retrouvait déjà dans son premier court-métrage, Courte vie, mais aussi dans sa série La Brigade, dans laquelle il s'intéressait plus au profil psychologique, aux angoisses et aux faiblesses des hommes. Résultat, ces films portent tous en eux une part un peu autobiographique et sont, malgré leur éclat teinté, irrémédiablement de noir. Un contraste que le cinéaste assume sans complexe et qu'on retrouve d'ailleurs dans son nouveau long métrage « Mon père n'est pas mort » où il essaye, comme il le dit, de comprendre la nature humaine. Et après avoir parlé cinéma avec Mon père n'est pas mort de Adil Fadili, on va parler et cinéma et littérature avec la réalisatrice et auteure marocaine Khaoula Asbab Ben Omar qui vient de publier chez La Croisée des Chemins son premier roman intitulé presque L'histoire d'une renaissance. Le nouveau roman de l'écrivaine raconte l'histoire d'une femme dans un avion. Voilà comment commence le roman de Khaoula Ben Omar. C'est l'histoire de Ito, l'histoire d'une résilience, de l'affranchissement d'une femme qui va finir par se libérer de ses chaînes sous prétexte d'un voyage sans forcément d'escale ou de destination. Une sorte de seconde vie qu'elle s'offre à elle-même, un renouveau, une renaissance, un exutoire. Au fond d'elle, Ito, nous dit l'auteur, était dans une phase qu'elle voulait prolonger, un moment qu'elle a toujours apprécié. On écoute tout de suite Khawla Ben Omar.
Alors l'idée de ce roman a commencé par l'écriture d'un scénario. En fait, au début, je voulais écrire le scénario de mon deuxième long métrage. Ça a commencé comme ça, ça a commencé avec des séquences. Et puis je me suis étalée, je me suis retrouvée à écrire des pages. Je me suis dit, bon, je vais suivre le cours de la chose et on verra par la suite. Et puis à la centième page, je me suis rendue compte que j'étais en train d'écrire un livre. L'écriture d'un livre, c'est quelque chose de très solitaire, très bizarre. On ne sait jamais si on va y arriver ou pas et on n'arrive même pas à se dire. Je suis en train d'écrire un roman, quelque part c'était un peu un rêve chez moi. J'avais toujours rêvé d'arriver à ce stade où je pourrais écrire un livre. Et donc je me disais peut-être que je vais y arriver. Et puis à un moment donné je me dis j'y suis presque. Et donc voilà, on y est. Cette histoire, oui, ça raconte l'histoire d'une femme, ça raconte les choix de femmes, ça raconte nos rapports dans la société, ça raconte les rôles qu'on donne à chacun dans notre société, mais aussi à chacun dans notre propre vie. C'est pas un livre. On me dit souvent que c'est un livre féministe ou que c'est un livre pour femmes. C'est un livre féministe certes parce que ça remet en question plusieurs ordres établis et plusieurs stéréotypes, mais c'est un livre de remise en question parce que je pars du principe que si on veut évoluer, si la femme veut évoluer, si on veut changer notre situation dans notre société, ça devrait commencer par nous, par nos choix et nos non-choix, notre façon de nous taire, notre façon de reproduire les mêmes schémas. Et donc voilà. C'est pour ça que ça rejoint un peu mon combat au quotidien. La vérité, ça fait très longtemps que j'ai écrit ce livre. Ça a pris quelques années pour sortir. Maintenant, j'en suis au deuxième. Il est presque prêt. Mais quand j'ai commencé à l'écrire, je commençais à peine à travailler à être dans la société civile, à travailler, à m'engager dans l'associatif, dans le combat des droits des femmes. Et j'étais dans cette critique de notre société. J'ai rassemblé tout ce que je voyais dans notre société que je n'aimais pas, que ça soit dans le rapport avec les enfants, que ça soit dans les rapports avec la famille et tout ça. Et puis après, voilà, je me suis engagée dans la société civile, ce qui fait que maintenant je suis présidente de Joussour Forum des femmes marocaines. Mais voilà, ce livre est venu bien avant.
Il est venu bien avant et là tu me parles de ton deuxième livre que tu écris. Et voilà, tu me dis qu'au début c'était un scénario, ça finit en roman et ça se rejoint quelque part. Après, quand on écrit un scénario, on le pense cinématographiquement. Puis là, tu l'as senti en tant que roman. Est-ce que aussi, en tant que femme, c'était pas peut-être pour toi une manière de parler quelque chose que tu as vécu, qui te touche? Est-ce qu'il y a une part biographique, une sorte d'exutoire, d'échappatoire, de vomir un peu quelque chose?
Alors, autobiographique, non, parce que c'est pas mon histoire, mais je suis dedans, quelque part. Il y a des moments, peut-être que je suis dans certains profils que je décris, mais tous les personnages existent quelque part, parce que c'est des choses que j'avais remarquées. À quel moment de ma vie, je ne sais pas. Comme je disais, c'est des choses que j'avais vues, que j'avais analysées, que j'avais remarquées, et j'ai tissé toute une histoire autour. Je ne voulais pas raconter l'histoire de Ito, je voulais raconter des choses que j'avais remarquées dans notre société. Et donc, en mettant noir sur blanc ce que j'avais remarqué, j'ai tissé une histoire autour pour que ça fasse un roman. Je suis dedans parce que quand on parle de rapport aux enfants, quand on parle d'amitié, quand on peut-être que je ne parle pas de moi-même, mais je parle aussi de mes amis, de gens que j'ai côtoyés. Donc, je pars du principe que quand on écrit quelque chose, elle vient de quelque part. Sauf quand on écrit de la science-fiction, et même là, ça vient de quelque part. Je ne peux pas dire que c'est une histoire à 100% créée, mais sinon, personne ne s'y retrouverait. Donc, c'est des sujets que je voulais aborder. J'ai trouvé le moyen de les raconter. Et certaines personnes se retrouvent dedans, me disent « Mais tu parles de moi, là ?» J'ai eu l'impression que tu étais dans ma tête. Parce que là, Et c'est ce qui est intéressant, c'est que ça parle de choses qui existent, des choses où on peut se reconnaître. Et voilà, c'est ce qui attire l'attention d'une personne pour se dire « Je vais finir ce livre » et pour suivre les idées que je voulais aborder.
et à côté donc de la sortie de ce livre, un deuxième roman donc, qui va presque voir le jour, et puis un film dont tu viens de clôturer le tournage. C'est tout frais. Et est-ce que tu peux nous parler, bien sûr, brièvement de l'histoire et de comment tu te sens donc de cet après-tournage qui a fini il y a quelques semaines?
Je suis toujours dans les mêmes sujets de prédilection, donc la remise en question, la femme, la situation de la femme. Ce que je peux dire, c'est Radia, c'est une femme qui se rencontre. Donc c'est une femme en pleine remise en question. Je viens de finir le tournage, c'était très difficile. La vérité, c'était très intense parce qu'il y avait des choses très touchantes, très difficiles à tourner. Les conditions étaient très compliquées. Il ne faut pas oublier qu'on sort d'une catastrophe naturelle qui a eu lieu en plein dans notre tournage. C'était très difficile émotionnellement. Déjà moi, en tant que personnage, en tant que personne, je vis le plateau de tournage comme avec toute son intensité, donc c'était très lourd. J'ai pris du plaisir à créer ce que j'avais imaginé. Il y a eu des choses qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché. On verra ce que ça va donner par la suite. Mais là, je suis en montage et je suis contente d'arriver à cette phase-là.
Merci beaucoup, Raoula Benomar, d'avoir été avec nous.
Merci à vous, c'était un plaisir.
Raoula donc, Aseba Ben Omar, qui nous régale avec son dernier roman, presque l'histoire d'une renaissance et qui est en train de peaufiner son tout dernier long métrage. Et c'est vrai qu'on a hâte de voir le résultat. Tout de suite, avant de nous quitter dans l'Afrique en culture, je vous propose une petite escale musicale avec un certain Young John, sensation nigériane. En 2023, Young John s'est lancé dans une collaboration remarquable avec la chanteuse Tiwa Savage et l'étoile montante Ayra Starr. Et ça a donné naissance à un premier hymne, Stamina, qui s'est rapidement hissé au sommet des chansons les plus jouées d'Apple, notamment en Afrique. L'année précédente, son chef-d'œuvre sonore, donc Extra Cool, avait régné en maître au Nigeria pendant pas mal de temps. Un véritable succès, un véritable exploit qui signe encore une fois la légitimité de Young John sur la scène africaine, musicale mais également internationale. Et ce n'est pas Sherp Lee, son dernier son, qui fera exception à la règle. On écoute tout de suite. No, oh, 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 no.
I know this our love forever. Mo want something to your son. Blame me, to my lifestyle you do. No con ye con do me juru. You won't play me, bang bang gulu. You dey eye me like I'm Onkolos. Onkolos. Deep down inside my kidney, I love you and I'm not kidding. Oh, when you find that I'm a fly guy. I know I'm a shy guy, but I'm a sharp guy. No con ye con do me juru. You won't play me, bang bang gulu. You dey eye me like I'm Onkolos. Onkolos.
Sherp Lee, donc Young John qui nous régale encore une fois, le Nigérian qui ne finit pas de monter. Il faut dire que dernièrement il a révélé l'immense joie qui accompagne son succès. Il faut dire que c'est un énorme travailleur, un acharné du travail qui passe des heures et des heures en studio et, comme il le dit, produire de grandes chansons pour de grands artistes est extraordinaire, mais il y a beaucoup de travail derrière. Arranger la musique, s'assurer que le son est au niveau souhaité, que la qualité est élevée. La perfection n'existe pas, c'est pourquoi nous revenons sur le projet autant de fois que possible. Apparemment, il a la clé du succès. Merci d'avoir été avec nous sur Média pour l'Afrique en culture. Très bonne écoute à tous et n'oubliez pas, l'Afrique en culture, c'est à retrouver toujours sur Média Podcast et en
avant-première. Give me your vitamin loving, cause I'm loving you every day. Nobody knows tomorrow, but I could be by your side anyway. Anyway, the matter be, anyway, the matter be. Oh, you need me to fantasy, you need me physically. Come, I push up, Ali. Oh, no, no. Give me your vitamin loving, cause I'm loving you every day. Nobody knows tomorrow, but I could be by your side anyway. Anyway, the matter be. Anyway, the matter be, when you need me to fantasy, you need me physically. Come and push up, Ali. Oh, no, no. Give me your vitamin loving, cause I'm loving you every day.
Nobody knows tomorrow, but I could be by your side anyway. Anyway, the matter be. Anyway, the matter be. Oh, you need me to fantasy. You need me physically. Call my phone, shall I? Oh, no, no.